Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. UDM Nouvelles et La Presse. Au programme, quelle identité pour les descendants de couples mixtes dont un des parents est musulman? L'intelligence artificielle va changer le travail. Et halte aux bottes boueuses. Bonne écoute!
Quelles identités pour les descendants de couples mixtes dont un parent est musulman? Un texte de Martin Lassalle, paru le 19 mai 2023 dans UDM Nouvelles. Les personnes nées au Québec de parents dont l'un est musulman se forgent des identités liées tant aux repères culturels de ce parent qu'à la culture québécoise. Comment se définissent les personnes nées au Québec dont l'un des parents est musulman? Comment se combinent les différentes valeurs transmises par leurs parents et celles de la société où elles ont grandi? Ces questions et plusieurs autres ont incité la chercheuse Josiane Le Gall à mener une étude qualitative sur le sujet qui a été publiée dans un dossier thématique de la revue scientifique Social Compass. Ce dossier examine la manière dont les familles constituées de personnes musulmanes et non musulmanes à travers le monde abordent les questions d'identité et de religion au quotidien ainsi que les contraintes du contexte social dans lequel elles vivent. Professeure associée au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, Josiane Le Gall s'est appuyée dans sa recherche sur une étude plus vaste sur les identités plurielles des enfants de couples mixtes au Québec à laquelle ont pris part une centaine de personnes. Dans le cadre de son analyse, 23 personnes de 18 à 40 ans qui ont un parent musulman ayant immigré au Québec ont ainsi été interviewées. Les parents musulmans de ces participantes et participants étaient originaires du Maroc, de Tunisie, de Turquie, du Liban, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de Guinée, d'Égypte, de Gambie et du Bangladesh. Dans les deux tiers des cas, ces gens n'étaient pas pratiquants. Identité québécoise ou canadienne d'abord et avant tout. Au cours des entrevues qu'elle a réalisées auprès de descendants de couples mixtes, Josiane Le Gall a repéré trois stratégies identitaires utilisées par leurs parents en matière de référence culturelle, soit l'absence totale de transmission culturelle, la transmission explicite de marqueurs identitaires, transmission de la langue ou de la religion, et la simple mise en œuvre des références culturelles. La religion n'est pas activement transmise, mais il y a la présence de pratiques culturelles et religieuses à la maison. De façon unanime, les participantes et participants ont dit s'identifier d'abord comme Québécois et dans une moindre mesure comme Canadiens, et ce, que leur deuxième parent soit né au Québec ou non. Leurs influences proviennent d'abord et avant tout du lieu où ils sont nés, car c'est ici qu'ils se sentent chez eux, souligne Josiane Le Gall. C'est notamment à travers l'école et les amitiés qu'ils ont nouées que leur identité s'est le plus forgée. Ces personnes sont aussi majoritairement attachées à l'héritage culturel transmis par leurs parents issus de l'immigration. Elle revendique une identité plurielle qui combine les influences culturelles des deux parents, celui venu d'ailleurs et celui d'ici, ajoute Josiane Le Gall, comme le veut une expression populaire, elles se disent 100% mixtes. La langue et la religion, peu ou pas transmises. La mixité culturelle dans laquelle les sujets ont baigné les a influencés à différents égards, notamment en ce qui a trait aux traditions culturelles et culinaires du pays où est né leurs parents musulmans, mais pour plusieurs d'entre eux, la religion ainsi que la langue du parent immigré ne font que peu ou pas partie du bagage qui leur a été transmis. Dans le cas de la langue, la majorité des personnes interrogées disent que le français, et pour quelques-unes l'anglais, était la langue parlée à la maison. Une fois adultes, plusieurs regrettent que leurs parents ne leur aient pas appris l'arabe, par exemple, et entreprennent les démarches pour l'apprendre, mentionne la professeure. Ils auraient souhaité pouvoir parler cette langue, entre autres lorsqu'ils vont visiter leur parenté dans le pays d'origine du parent immigré. Pour ce qui est de la religion, il s'agit d'une dimension importante de l'identité pour les quelques participantes et participants dont les deux parents sont de confession musulmane et pratiquants. Les autres soulignent que, s'ils ont pris part à certains rites musulmans, ils n'ont généralement pas adhéré à cette religion, ni aux autres d'ailleurs. Étant nés au Québec, ils expriment une certaine réticence, voire de l'indifférence, à l'égard de la religion en général, commente Josiane Le Gall. La mixité culturelle comme richesse. La chercheuse a constaté que c'est surtout lorsqu'ils amorcent leur vie adulte que les individus ressentent davantage le besoin de s'approprier les marqueurs culturels de leurs parents musulmans. À l'adolescence, ils sont plus enclins à rejeter ou à minimiser l'importance de leur culture minoritaire, observe-t-elle. Et dans la majorité des cas, l'identification au groupe minoritaire est surtout associée à des expériences et à un savoir acquis dans le quotidien avec leurs parents immigrés, plutôt qu'au fait de connaître la langue, la religion ou de posséder la nationalité. Les identités de nos participantes et participants varient grandement, mais ils ont tous en commun de considérer leur mixité culturelle comme une grande richesse et non comme un élément problématique, conclut Josiane Le Gall. Il rejette d'ailleurs une définition rigide et prédéfinie de l'identité et il concilie aisément les différentes facettes de leur identité qui ne leur semblent en rien antagonistes. C'était « Quelles identités pour les descendants de couples mixtes dont un parent est musulman ?» Un texte de Martin Lassalle, paru le 19 mai 2023 dans UDM Nouvelles.
L'intelligence artificielle va changer le travail, mais comment? Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse. En 2013, des chercheurs de l'Université d'Oxford ont publié des chiffres surprenants sur l'avenir du travail. Ils estimaient que 47 % des emplois américains étaient menacés d'automatisation dans un nombre d'années non précisées, peut-être une ou deux décennies. 10 ans plus tard, le taux de chômage dans le pays a atteint un niveau historiquement bas. Le tsunami de titres sinistres de l'époque, comme « Les riches et leurs robots sont sur le point de faire disparaître la moitié des emplois dans le monde », semble tout à fait erroné. Mais les auteurs de l'étude affirment qu'ils n'avaient pas l'intention de suggérer que l'apocalypse était proche. Ils essayaient plutôt de décrire ce dont la technologie était capable. Il s'agissait de la première tentative de ce qui est devenu une expérience de pensée à long terme avec des groupes de réflexion, des groupes de recherche d'entreprise et des économistes qui publient article après article pour déterminer dans quelle mesure le travail est affecté par ou exposé à la technologie. En d'autres termes, si le coût des outils n'entrait pas en ligne de compte et que le seul objectif était d'automatiser autant que possible le travail humain, quelle quantité de travail la technologie pourrait-elle prendre en charge? À l'époque où les chercheurs d'Oxford, Carl Benedict Frey et Michael A. Osborne menait leur étude. IBM Watson, un système de réponse aux questions alimenté par l'intelligence artificielle, IA, venait de choquer le monde en remportant le jeu Jeopardy. Des versions d'essais de véhicules autonomes circulaient pour la première fois sur les routes. Aujourd'hui, une nouvelle vague d'études suit l'essor des outils qui utilisent l'IA générative. En mars 2023, Goldman Sachs a estimé que la technologie sous-jacente aux outils d'IA populaires comme DALL-E et ChatGPT pourrait automatiser l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein. Des chercheurs d'OpenAI, le concepteur de ces outils, et de l'Université de Pennsylvanie ont constaté que 80 % de la main-d'œuvre américaine pourrait voir un effet sur au moins 10 % de ses tâches. L'incertitude est énorme, a indiqué David Autor, professeur d'économie au Massachusetts Institute of Technology, MIT, qui étudie les changements technologiques et le marché du travail depuis plus de 20 ans. Et les gens veulent apporter ces réponses. Mais que signifie exactement l'affirmation selon laquelle, par exemple, l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein pourrait être affecté par l'intelligence artificielle? Cela dépend, selon M. Autor. Affecter peut signifier améliorer, aggraver, disparu, doubler. Le fait que la technologie tende à automatiser des tâches et non des professions entières est un facteur de complication. En 2016, par exemple, le pionnier de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton, a étudié une nouvelle technologie d'apprentissage profond capable de lire des images médicales. Il a conclu que si vous travaillez comme radiologue, vous êtes comme le coyote qui a déjà franchi le bord de la falaise, mais qui n'a pas encore regardé en bas. Il prévoyait 5 ans, voire 10 ans, avant que les algorithmes ne fassent mieux que les humains. Ce qu'il a probablement oublié, c'est que la lecture des images n'est qu'une des nombreuses tâches, 30 selon le gouvernement américain, des radiologues. Il s'occupe également de s'entretenir avec des professionnels de la santé et de donner des conseils. Aujourd'hui, certains professionnels du secteur s'inquiètent d'une pénurie imminente de radiologues. Et M. Hinton est depuis devenu un critique public virulent de cette même technologie qu'il a contribué à créer. Vous écoutez? L'intelligence artificielle va changer le travail. Mais comment? Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse. Frey et Osborne ont calculé leur chiffre de 47 % en partie en demandant à des experts en technologie d'évaluer la possibilité d'automatiser des professions entières comme télévendeur ou comptable. 3 ans après la publication de leur article, un groupe de chercheurs du centre ZEW pour la recherche économique européenne, établi à Mannheim, en Allemagne, a publié une étude similaire qui évaluait des tâches comme expliquer des produits ou des services et a constaté que seulement 9 % des professions dans 21 pays pouvaient être automatisées. Les gens aiment les chiffres, a affirmé Melanie Arntz, autrice principale de l'étude du ZEW. Les gens pensent toujours que le chiffre doit être solide d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un chiffre. Mais les chiffres peuvent vraiment être très trompeurs, selon Melanie Arndt. Dans certains scénarios, l'intelligence artificielle a essentiellement créé un outil et non un remplacement complet de l'emploi. Vous êtes maintenant un terrassier qui peut utiliser une excavatrice au lieu d'une pelle. Ou une infirmière praticienne ayant accès à de meilleures informations pour diagnostiquer un patient. Il est possible que vous deviez facturer plus cher l'heure, car vous obtiendrez beaucoup plus de résultats. Dans d'autres cas, la technologie remplace votre travail au lieu de le compléter. Ou encore, elle transforme votre travail qui exige des compétences particulières en un travail qui n'en exige pas. Il est peu probable que cela se passe bien pour vous. Une sonnette d'alarme. Même si un emploi devient complètement automatisé, le sort des travailleurs déplacés dépendra de la manière dont les entreprises décideront d'utiliser la technologie pour de nouveaux types de travail, en particulier ceux dont nous ne pouvons pas encore imaginer, a expliqué Darren Acemoglu, professeur au MIT et auteur de « Power and Progress, Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity ». Ces choix porteront notamment sur l'automatisation complète du travail ou sur l'utilisation de la technologie pour accroître l'expertise humaine. Il a déclaré que les chiffres apparemment effrayants, prédisant le nombre d'emplois que l'IA pourrait supprimer, même si l'on ne sait pas exactement comment, étaient une sonnette d'alarme. Il pense que les gens pourraient prendre une meilleure direction, mais il n'est pas optimiste. Il ne pense pas que nous soyons sur une voie pro-humaine. Toutes les estimations concernant la quantité de travail que l'IA pourrait prendre en charge dépendent fortement des humains. Les chercheurs qui font des hypothèses sur ce que la technologie peut faire. Frey et Osborne ont invité des experts à un atelier pour évaluer la probabilité d'automatisation des professions. Les études plus récentes s'appuient sur des informations telles qu'une base de données recensant les capacités de l'IA créée par l'Electronic Frontier Foundation, un groupe à but non lucratif de défense des droits numériques. Elle s'appuie également sur des travailleurs utilisant des plateformes telles que Crowdflower, où les gens accomplissent de petites tâches en échange d'argent. Les travailleurs évaluent les tâches en fonction de facteurs qui les prédisposent à l'automatisation. Par exemple, si la tolérance à l'erreur est élevée, il s'agit d'un meilleur candidat à l'automatisation pour une technologie comme ChatGPT. Les chiffres exacts ne sont pas la question, affirment de nombreux chercheurs impliqués dans ce type d'analyse. Je décrirai notre méthodologie comme étant presque certainement erronée, mais, espérons-le, pointant dans la bonne direction, a déclaré Michael Shui, expert en intelligence artificielle chez McKinsey, qui a été l'un des auteurs d'un livre blanc de 2017 suggérant qu'environ la moitié du travail et 5 % des professions pourraient être automatisées. Ce que les données décrivent est, à certains égards, plus banal qu'on ne le pense souvent. De grands changements sont à venir et il vaut la peine d'y prêter attention. Cet article a été publié à l'origine dans The New York Times. C'était « L'intelligence artificielle va changer le travail, mais comment ?» Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse. Halte aux bottes boueuses, un texte de Marie Tison, paru le 20 juin 2023 dans La Presse. Isabelle Moisan et ses amis avaient profité de la longue fin de semaine des Patriotes pour parcourir un sentier au Vermont. Ils ont eu une petite surprise lorsqu'ils se sont présentés à la frontière pour revenir au Canada. On leur a demandé s'ils avaient bien nettoyé leurs bottes de randonnée. « Le douanier a été très sympathique », raconte Isabelle Moisan. « Il nous a demandé d'où on revenait et si on avait de la boue sur nos bottes. Nous en avions un peu, alors il nous a expliqué qu'en principe, on devait retourner aux États-Unis pour nettoyer les bottes. » Le douanier a expliqué aux randonneurs que la boue pouvait contenir des espèces nuisibles, des insectes, des œufs d'insectes, certains végétaux. Il s'est toutefois montré compréhensif et s'est contenté d'un avertissement. Il nous a laissé passer car il y avait plusieurs voitures derrière nous, mais il nous a bien avisé de faire attention la prochaine fois et de bien nettoyer les bottes avant notre passage à la douane. Il n'y a pas que les randonneurs qui doivent faire attention. Des adeptes de vélo de montagne ont signalé qu'ils avaient dû faire demi-tour à la douane pour aller nettoyer à fond leur monture. Il y a effectivement de bien bonnes raisons pour nettoyer ses bottes de randonnée, ses bâtons de marche ou son vélo de montagne avant de revenir au Canada. Il s'agit de protéger l'écosystème canadien. Les sols transportent de nombreuses espèces envahissantes ainsi que de nombreuses maladies d'origine végétale et animale, fait savoir l'Agence des services frontaliers du Canada par courriel. On n'autorise normalement pas les véhicules, l'équipement, les chaussures et les autres biens qui arrivent aux frontières contaminés par de la terre à entrer au Canada. L'agence précise que la terre et la boue peuvent transporter des bactéries, des champignons, des insectes, des nématodes, de petits vers, et des mauvaises herbes. Selon l'Agence des services frontaliers du Canada, bon nombre d'organismes nuisibles transmis par la terre peuvent survivre pendant de nombreuses années, et ce, avec ou sans l'aide d'hôtes appropriés. Certains de ces organismes nuisibles peuvent être détectés par une inspection visuelle, alors que pour d'autres, il faut utiliser des outils de diagnostic sophistiqués. Les autorités estiment qu'en raison du nombre et de la complexité de ces organismes, il est pratiquement impossible de garantir l'absence d'organismes nuisibles préoccupants. Il est donc plus simple de voir à ce que les articles ou les équipements soient exempts de terre. En outre, il n'est pas très compliqué de nettoyer les semelles de ses bottes ou la pointe de ses bâtons de marche après chaque randonnée. Il faut simplement en prendre l'habitude. De toute façon, le propriétaire de la voiture est généralement bien content lorsque les bottines de ses passagers ne laissent pas de coulée boueuse partout dans le coffre arrière. La réglementation précise que certains produits ne sont pas considérés comme de la terre et peuvent entrer au pays. Le sable provenant de plages d'eau salée, par exemple. Mais la boue des sentiers montagneux du nord-est américain, ça ne passe pas. Pas plus que la terre des pistes de vélos de montagne. La plupart des propriétaires d'embarcations connaissent aussi l'importance de bien nettoyer celles-ci pour éviter le transport d'espèces envahissantes comme la moule zébrée. Le Canada n'est pas le seul pays à vérifier ce qui se cache sous les semelles des randonneurs. La Nouvelle-Zélande, par exemple, est particulièrement pointilleuse à ce sujet. Dans les aéroports internationaux, on demande aux randonneurs de montrer leurs bottes, leurs bâtons de marche et même leurs piquets de tente pour s'assurer qu'il ne s'y cache aucun grain de terre. La Nouvelle-Zélande étant une île, les autorités prennent les choses au sérieux. Les passagers des bateaux de croisière qui visitent l'Antarctique sont soumis à des contrôles encore plus serrés. Les membres d'équipage vont jusqu'à passer l'aspirateur dans les coins et recoins des sacs de randonnée pour s'assurer qu'il ne reste aucune brindille, graine, poussière de pollen ou fragments de feuilles. Lorsque les passagers débarquent du navire pour fouler le sol de l'Antarctique, ils doivent d'abord tremper les semelles de leurs bottes dans un liquide désinfectant. Il s'agit surtout d'éviter d'introduire des pathogènes en Antarctique ou même de transporter des pathogènes d'une colonie d'animaux à une autre sur le continent même. On ne voudrait pas déclencher une épidémie chez les manchots, quand même. C'était « Halte aux bottes boueuses », un texte de Marie Tison, paru le 20 juin 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.